Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir les visages des enfants de Dieu, souriants, et puis on voit aussi dans vos yeux l'espérance, l'espoir qui est en Jésus-Christ. Merci aussi à notre frère qui nous a introduit dans la présence du Seigneur, et aussi par le choix des chants, les prières qui sont montées vers notre Père, et également ces deux lectures dans le psaume, cette prière de David, et puis dans l'épître aux Éphésiens, cette prière de Paul. Et mon thème, on ne s'est pas concerté, va aussi dans le même sens. C'est la prière, le thème global. Et puis, même les chants que nous avons chantés, c'était des prières que nous adressons à Dieu, des prières de louange, voire même des demandes. Mais avant cela, avant d'apporter le message, je voudrais juste dire aussi toute ma joie au Seigneur pour les uns et les autres, et aussi tout particulièrement pour Serge Oulahi. Il est venu sans crier gare, mais il est passé par nos amis les Rénaux. Alors Serge Oulahi, si je savais qu'il venait, je lui aurais donné la parole. C'est un pasteur, donc il a voulu passer inaperçu. Il dit « Ah, si je dis à Félix que je suis là, bon, bref, c'est pas ça. » Mais recevoir mon frère là, au milieu de nous, c'est beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de joie. Alors, Serge Oulahi est pasteur. Je l'ai connu il y a plusieurs années lorsqu'il finissait ses études de théologie à la fac de Vaud. Il était avec son petit garçon, Othniel, qui avait quel âge ? Peut-être 6-7 ans. Aujourd'hui, c'est un grand gaillard qui est à l'université. Et puis, le fait d'avoir rencontré ce bien-aimé a été pour moi un grand encouragement. Et puis, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur, c'est un pasteur. Il a la mission à cœur, il a l'Église du Seigneur en France, il a à cœur. Et c'est pour moi une joie de l'accueillir au milieu de nous. Donc Serge est en région parisienne, mais il est impliqué dans beaucoup de missions, notamment la mission biblique. Voilà, peut-être aussi dire ma reconnaissance de revoir Marie-Christine pour la deuxième fois consécutive. Voilà, tu es la bienvenue. Et les jeunes qui sont là. Coucou. Est-ce que vous aimez voyager ? Alors, je vous invite ce matin à faire deux voyages. Alors, le premier voyage, alors je parle au nom des Africains. Je parle au nom d'Étienne, de Thérèse, au nom de Serge Oulahi et à mon nom propre. Donc, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, Fatma, je ne t'ai pas oublié, mais c'est tout sûr. Alors, je vous invite pour ce premier voyage qui nous sert d'introduction, en effet. Et puis, le deuxième voyage auquel je vous inviterai à vous joindre à moi, cette fois-ci, ça sera pour voyager au cœur du livre des Actes des Apôtres. Alors, le premier voyage, donc, vous voulez vous joindre à Étienne, Thérèse, Serge et moi-même, pour aller dans un village en Afrique. C'était un village qui était construit dans une station missionnaire. Alors, dans cette station missionnaire, les villageois avaient l'habitude, donc c'était vraiment leur habitude régulière, ils avaient l'habitude d'aller prier dans la forêt. Donc, je rejoins le thème du frère introduit par le frère. Ils partaient de leur case régulièrement pour aller prier dans la forêt. Aussi, de chaque case, on pouvait distinguer un petit chemin conduisant vers la dite forêt. Donc régulièrement, chacun, depuis sa case, un petit chemin qui nous amène jusque dans la forêt. Alors quelquefois, comme bien souvent, moi aussi, quelquefois chacun, deux et plusieurs même, se refroidissait, donc par rapport à la prière. Et du coup, les autres villageois, regardant le frère en question, lui disent « Frère, L'herbe pousse sur ton sentier. L'herbe qui pousse sur le sentier est révélateur, quelque part, de manque de persévérance dans la prière. C'est une belle image. Ça vous a fait sourire. De chaque case, on voit ce petit chemin qui mène vers le lieu de prière. Alors je vous pose la question, frères et sœurs, et je me la pose aussi à moi-même. Quel est l'état de mon chemin, ce chemin qui mène de ma vie jusque dans l'intimité du Seigneur, c'est-à-dire la persévérance dans la prière. Il est important de souligner le mot « persévérance ». Pourquoi ? Parce que la prière reste vraiment un combat et un réel combat. Vous l'avez peut-être expérimenté à maintes reprises. La prière est un combat. Alors regardez votre chemin, ce chemin de prière. Y a-t-il de l'herbe qui pousse ? Si c'est le cas, alors je vous invite, pas à sortir le Roundup, parce que c'est mauvais, cette herbe. Herbicide, oui, on dit désherbant, c'est dangereux. Alors ne le sortez pas, pas de Roundup. Ne sortez pas non plus la tondeuse. Mais allez, par vos pieds qui piétinent sur ce chemin de prière, nous voulons enlever l'herbe qui pousse sur notre sentier. Le voyage est terminé en Afrique. C'était mon introduction. Et la persévérance, c'est aussi ce thème constant qu'on voit dans les Écritures et souvent par rapport à la prière. Que ce soit de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit de la bouche des apôtres et de l'apôtre Paul, la prière est souvent, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent couplée au verbe « persévérer » ou bien à l'expression « sans cesse » ou bien au mot « persévérance ». Donc, je vous amène à présent dans un autre voyage, cette fois-ci au cœur du livre des Actes des Apôtres. Ce livre écrit par Luc. Luc qui a écrit l'Évangile selon Luc, il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Alors, dans ce voyage que je vous propose, donc au cœur du livre des Actes, pour parler de la prière, je ne choisis pas un seul texte, donc ça ne sera pas une prédication textuelle, explicative à partir d'un texte, mais je veux juste prendre quelques versets ou quelques passages qui nous parlent de la prière dans le livre des Actes. Bien souvent, lorsqu'on aborde le livre des Actes, il y a beaucoup de choses, on se dit, mais ce n'est pas normatif. On n'est pas tous appelés à vivre comme vivaient les premiers chrétiens, les chrétiens de l'Église primitive. Mais par rapport à la prière, ah, là, il y a vraiment des choses qui sont normatives, qui nous concernent aujourd'hui. Alors, ce voyage dans le livre des Actes s'articule autour de trois étapes. Il y a trois étapes. La première étape, c'est une question. Quand est-ce que les premiers chrétiens priaient ? Quand est-ce qu'ils ont prié? C'est la première étape et nous allons nous arrêter. Et puis une fois qu'on a fini cette première étape, la deuxième étape, c'est ma deuxième préoccupation, la question que je vous pose, qu'est-ce qu'ils demandaient dans leur prière? Et enfin, la troisième étape, c'est comment les premiers chrétiens priaient. Alors c'est quand, quoi et comment? La première étape. Les disciples du Seigneur Jésus, vous connaissez cette histoire et nous est familière et aussi c'est notre histoire. Quand est-ce que les premiers chrétiens ont prié? Regardez Actes chapitre 1, verset 4. Il me semble que c'est là que ça démarre. C'est là qu'on voit une première mention de la prière. Actes chapitre 1, commençons ce voyage. Actes chapitre 1, verset 14. Mais on va lire à partir du verset 12 pour situer dans le contexte. Actes chapitre 1, à partir du verset 12. Et je vais lire ce texte. Alors, donc c'est après l'ascension du Christ, alors ils retournèrent, donc c'est les disciples, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage de la pièce où ils se tenaient d'ordinaire, et il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Il en manque un, et vous l'avez vu, et vous savez pourquoi il n'est plus là. Alors tous, regardez le verbe, verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jusque-là, la parole de Dieu pour cette portion ici. Le Christ est monté au ciel et il a dit à ses disciples par l'intermédiaire des anges, je ne sais pas des anges, mais des hommes vêtus en blanc, « Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller. Il reviendra. » Mais en attendant, mais les disciples continuent leur marche ici et cette marche comprend aussi la prière. Les voilà qui se retrouvent ensemble, ils prient et qu'est-ce qui est dit au sujet de leur prière? D'un commun accord. Il y a unité. Il y a, on se serre les coudes, on prie ensemble. Et le verbe persévérer peut être mis en exergue. Quand est-ce qu'ils ont prié? Mais c'est juste après l'ascension du Christ et avant la Pentecôte. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, je ne parle pas ici à mon thème, ça ne va pas être la prière individuelle, cela peut faire même l'objet de notre message, mais ici, d'un commun accord, tous ensemble, tous persévéraient à I-E-N-T, pluriel, donc ils étaient plusieurs. Et là, je pointe du doigt ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le parent pauvre de l'Église. Désolé, le parent pauvre de l'Église, pas simplement de l'Église d'Uzès, mais aussi de toutes les Églises, souvent le parent pauvre, c'est la prière. La prière communautaire. Quand est-ce que nos aînés, les premiers chrétiens, ont-ils prié? Eh bien, ils ont prié pour des choix stratégiques, des choix importants à faire. Ils ont associé la prière au choix du serviteur de Dieu. La prière était associée à ce choix. C'est ce que nous lisons au chapitre 1er, toujours, des Actes des Apôtres, verset 24. Il y a une prière. Il est dit, et l'on fit alors cette prière, donc c'était par rapport au choix de Judas, enfin le remplacement de Judas, pardon, le choix de Matthias. Toi, Seigneur, voilà la prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis, ils tirèrent au sort et Matthias fut désigné. Un choix stratégique, un choix important, plus important que stratégique, le choix du serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qui a précédé à ce choix-là? La prière. Quand est-ce que nos amis, nos frères aînés dans la foi de l'Église primitive, quand est-ce qu'ils ont prié? Mais ils ont prié juste avant un événement important. La venue du Saint-Esprit. Mais les voyons encore là, en train de prier pour un choix important. Cette prière, la prière pour le choix du serviteur, a été aussi dite concernant les proto-diacres, ce qu'on appelle les premiers diacres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, il n'est pas mention de diacres, mais ces six personnes, ces six frères, c'est pas sept, pardon, eh bien, ces sept hommes, ils ont été choisis pour accomplir un peu le diaconat. Et si vous regardez, vous connaissez bien cette histoire, le choix des diacres ou le besoin d'avoir des diacres pointe du doigt, pas simplement les soucis qu'il y avait dans l'Église, mais pointe du doigt, et ça je peux le dire sans crainte de me tromper, que c'est par rapport à l'importance de la prière. Les apôtres disent, eh bien, nous allons nous dédier, nous dévouer à la prière et à l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est important aussi, mais choisissons des hommes spirituels. Et ces hommes spirituels ne sont pas, ces hommes-là pour accomplir la tâche, sont choisis toujours dans l'esprit de prière. Regardez Actes chapitre 6, on continue toujours ce voyage, Actes 6, à partir du verset 3, et on terminera par le verset 6, qui nous importe parce qu'il parle de la prière. Les protodiacres. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra, disent les apôtres, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples, ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit, saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, il n'y a pas Pumba, ne cherchez pas, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux. Les apôtres qui prient pour eux. L'important aussi de la vie de prière communautaire, pas simplement de toute l'assemblée, mais aussi des responsables, ceux à qui Dieu a confié la responsabilité de son Église. Il n'y a pas qu'à se retrouver pour parler des affaires matérielles qui sont importantes, bien entendu. La gestion de l'Église, c'est important. Mais quelle est la place qu'un conseil d'église, un collège des anciens donne-t-il à la prière? La prière est aussi présente, nous continuons notre voyage, regardez le verset, chapitre 13, du verset 23, toujours par rapport au choix des serviteurs. La prière est prépondérante, la prière est présente. Chapitre 13, verset 23. Alors, est-ce que c'est le verset 23? Peut-être pas. Mais c'est tout au début. C'est le début, verset 1, 2, 3.
Oui. Ouais. C'est pas 14. Non,
c'est ça. Voilà, mais en tout cas, les premiers là nous montrent, peut-être 14, il y a aussi la prière, mais regardez. Il y avait alors Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Il y avait Barnabas, Siméon, surnommé Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur. Il y avait aussi Saul. Un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Donc, ils étaient en train de prier. Et leur prière comportait aussi l'adoration, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en adorant le Dieu suprême. Et ils jeûnaient. Regardez, c'est dans ce contexte-là que la voix du Saint-Esprit se fait entendre, je ne sais pas comment. Est-ce que c'était de manière audible? Est-ce qu'il a choisi quelqu'un, un prophète? La Bible ne le dit pas, mais ce qui est important ici, chers amis, c'est le message qui est donné, mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Et c'est dans le contexte de la prière. Verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, voilà, ils imposent les mains et les laissent partir. Choix des serviteurs, que ce soit pour remplacer Judas, que ce soit par rapport aux sept protodiacres ou par rapport à la mission. Quand est-ce que nos aînés ont prié? Cette église primitive, nous sommes au chapitre 4, revenons au chapitre 4, verset 24. C'est au sein de la persécution. Au sein de la persécution, Actes chapitre 4, On peut même lire à partir du verset 23. Chers amis, regardez, c'est au sein de la persécution. La prière les accompagne. Quand est-ce qu'ils priaient? Ils priaient aussi dans des moments compliqués, difficiles. L'Église traverse un moment difficile. La prière, elle est où? Face aux choix stratégiques, les choix importants, où est la prière? Sitôt libéré, nous sommes au chapitre 4, verset 23. Sitôt libéré, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu. J'insiste sur cette dimension communautaire. Unanime, prie Dieu. Regardez la prière. Je reviendrai quand même sur cette prière par rapport à ce qui est demandé. Parce que là, une des étapes que je vous propose dans ce voyage, c'est qu'est-ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu. Mais je reviendrai sur ce passage. Mais pour l'instant, je mets l'accent, chers amis, sur l'unanimité. Tous ensemble, prie. Et quelle est leur prière? Ils s'adressent au Dieu souverain, maître. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Une bonne leçon pour moi. Souvent nos prières, on démarre nos prières, je l'ai dit jeudi à la réunion de prière, on vient avec une liste là. Voilà les besoins. Et le faire de cette façon-là, c'est nous focaliser sur notre personne. Alors que c'est sur Dieu. Nous voulons regarder au maître de l'univers. La prière commence de manière extraordinaire. Tous unanimes se mirent à prier, je ne sais pas comment, tous ensemble, comment ils sont arrivés à formuler cette prière. Ce n'est pas le plus important. Mais maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Cela pointe du doigt non seulement la souveraineté de Dieu, mais sa puissance. Ce Dieu à qui nous allons nous adresser, c'est le maître de l'univers. Quand est-ce qu'ils ont prié? Dans l'adversité, face à la mort. Étienne, loin de s'abandonner au désespoir et à la haine, il prie. Il prie pour les beaux, pour qu'ils soient pardonnés. Sûrement en copiant, c'est du copier-coller de son sauveur qui a prié pour ceux qui l'ont persécuté. Et là, Étienne dit, mais pardonne-leur, ils savent ce qu'ils font. Pierre se trouve en prison. Et que fait l'Église? Nous sommes au chapitre 12. Que fait l'Église? L'Église prie. Ardemment. Prie beaucoup. Mais je me suis dit, parfois, ces chrétiens-là, c'est peut-être une pointe d'humour, hein. Mais là, sur ce coup-là, c'était des chrétiens athées, quoi. Chrétiens athées. Qui ne croient pas vraiment Dieu. Ils prient. Et peu de temps après, le Seigneur agit. Pierre est libéré. Et cette petite vient dire, ben, voilà, on ne frappe à la porte, c'est la petite fille qui a ses membres qui va regarder. Mais c'est Pierre. Quelle est la réaction de ces chrétiens athées qu'on a parfois tendance à mettre sur le piédestal? Moi, le premier. Les chrétiens, oui, qui doutent. Ils, sont pas, ben, ils ont demandé que le Seigneur libère son serviteur, sûrement. Mais Dieu agit. Et on a parfois tendance à ne pas voir ce que Dieu a accompli. Il y a plusieurs passages bibliques, chers amis, ce n'est pas une étude biblique, j'aurais pu vous citer tous les passages, presque tous dans le livre des Actes, qui montrent les moments clés où l'Église primitive a prié. Je vous pose encore cette question. Les Africains se joignent à moi, les Blacks, pour vous demander et nous demander à nous aussi. L'herbe pousse sur notre sentier. Qu'allons-nous faire? Passons à la deuxième étape de notre voyage dans les Actes des Apôtres autour de cette question. Que demandaient-ils dans leur prière? Dans presque toutes ces prières que j'ai étudiées et regardées, ce qui me frappe, c'est l'absence des préoccupations personnelles. Préoccupations personnelles, je ne dis pas, je suis le premier à vous donner des sujets qui concernent des difficultés qu'on peut traverser, je vous encourage à prier les uns pour les autres, ce sont des préoccupations personnelles, bien sûr, elles sont importantes. Mais qu'en est-il des préoccupations du royaume de Dieu? Ce qui préoccupait ces premiers chrétiens, nos aînés, c'est le royaume de Dieu. Dis-moi comment tu pries, Félix, je te dirai qui tu es. Nos prières, souvent, sont révélateurs de nos préoccupations, révélateurs de notre cœur. Chers amis, Dieu n'est pas un distributeur à l'arrière. Je mets une pièce, ça sort, etc. Ce n'est pas ça. Dieu est Dieu souverain. Ceux qui s'approchent de lui doivent savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu accorde ses grâces. Mais nous venons auprès de lui à l'exemple de ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Lorsque les disciples sont venus le voir en disant, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le fait auprès de ses disciples. Apprends-nous à prier. » Et à cette réponse, Jésus va leur dire, « Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Une prière qui cherche le royaume de Dieu et la justice du Seigneur. Voilà comment, chers amis, si vous voyez que l'herbe pousse et vous ne savez parfois pas quoi dire, mais regardez à votre Dieu, celui qui va inspirer nos prières, celui qui va inspirer notre louange. Le frère ne nous a-t-il pas, à l'introduction du culte, posé deux questions? Une, c'est de le regarder. Qu'est-ce qu'on voit en Dieu? Ils cherchaient le royaume de Dieu. Persécutés, ils ne demandent pas la fin de leur souffrance, mais plutôt, si vous lisez toujours ce chapitre dont je vous ai fait part tout à l'heure, le chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30, persécutés, ils ne demandent pas la fin de leur souffrance, mais plutôt l'assurance dans leur témoignage et la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà ce qu'ils demandent. On serait tenté de dire, Seigneur, il nous arrive telle souffrance, telle épreuve. Délivre-nous, s'il te plaît, Seigneur. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la fin de la persécution qui est demandée ici. Mais plutôt l'assurance d'être les témoins fidèles de Christ. Et ça passe par la prière et aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que nos prières, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, est-ce que c'est juste pour notre confort ou bien c'est pour la gloire de Dieu? Voilà ce qui doit être fini. Ton but, prière, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pas la fin de la souffrance, pas la fin du problème, parce que le problème est fini, il y en aura d'autres. Désolé de dire ça, c'est comme ça. Mais en toute chose, et bien que la gloire de Dieu soit manifestée. En tout cas, toutes les prières, je peux l'affirmer sans crainte de me tromper, elles cherchent avant tout la gloire de Dieu. Que le Christ habite pleinement dans vos cœurs. C'est le royaume de Dieu. afin que nous puissions comprendre la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Le texte est lu par Michel. Qu'est-ce qu'on cherche dans cette prière de l'apôtre Paul? La gloire de Dieu. La première étape, quand priait-il? La deuxième étape, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mais c'était pour la gloire de Dieu. Et la dernière étape de ce voyage, c'est comment prier les premiers disciples. Je me répète, comment ils priaient? Dans l'unité. Il est souligné dans mon premier point, et ici c'est encore à mettre en exergue, à stabiloboser, comme je l'ai fait dans mes notes. Prier d'un commun accord, chapitre 1er, verset 14. Non seulement tous prenaient une part active à la réunion de prière, mais ils le faisaient sans que rien les sépare les uns les autres. Et bien souvent, chers amis, ça peut être peut-être une raison pour laquelle les réunions de prière sont désertées. Pas usées seulement, désolé, mais en général, je crois que Étienne, Serge, Jean-Claude, pour aller aussi dans le même sens, qui visitent des églises ou qui sont aussi impliqués dans des églises ailleurs, la prière reste le parent pauvre. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas l'unité entre les chrétiens. De commun accord. Rien ne tue l'esprit de prière comme les divisions, les jalousies et les disputes. Et si chacun ne pense qu'à sa conception des choses, sans aucun égard pour les autres, alors la prière, ça ne vaut pas la peine. On vient tous ensemble. Comment? De commun accord. En laissant nos difficultés, nos différences, et parfois même nos différends, laisser de côté. Implorer l'unité de Christ et vivre ce temps comme étant une bénédiction. Et alors, ça sera vraiment une bénédiction aussi pour l'Église et aussi pour le royaume de Dieu. Il priait avec persévérance. Persévérer, c'est quoi? C'est continuer. C'est ne pas se laisser à la tentation de baisser les bras. J'arrête. Et lorsqu'on arrête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'herbe pousse sur notre sentier. Persévérer. Il persévérait. Jésus n'a-t-il pas donné une parabole pour montrer qu'il ne faut pas se relâcher? Continue toujours, persévérer dans la prière. N'a-t-il pas dit à ses disciples, priez sans cesse. Ne dormez pas, venez avec moi, priez. Ils ont aussi prié avec un plus grand sérieux, je trouve. Le plus grand sérieux. Et ce sérieux est pointé, moi en tout cas, je veux le dire, par parfois l'attitude corporelle. Ils se sont agenouillés. Je ne sais pas quelle est la dernière fois où vous êtes retrouvés à genoux pour prier. Peut-être qu'on regarde très facilement à la gonarthrose, l'arthrose de genou. Du genou. Quand? Il y a non seulement l'attitude, mais aussi le sérieux. Souvent, ce sérieux est pointé par le jeûne, cher ami. Ça montre aussi le sérieux. Ils prient, ils jeûnent. Ils vont se mettre à genoux. Je copie quelqu'un, parce que je l'ai entendu dire ça, je n'avais pas prévu, mais parce que la personne est là. Et il va savoir dans quelle situation elle dit ça. Parler des prières, parfois la posture dans nos prières. Ah, Seigneur, tu vois? Ah, il a parfois son téléphone en main. Les pieds croisés. C'est aussi l'attitude, chers amis. J'aurais pu vous demander, là en ce moment, qu'on se mette à genoux et qu'on adresse une prière. J'aurais pu le faire, mais je crains que vos genoux, s'ils sont comme les miens, ça va être compliqué. Chers amis, mais il y a aussi la posture. Tout notre être, on s'adresse à Dieu. Imaginez qu'on a la visite d'un président ou quelqu'un qui a des responsabilités au milieu de nous. Je crois qu'on fera très attention à comment on est habillé et aussi la posture. Ils priaient d'un commun accord avec persévérance, mais aussi avec le plus grand sérieux, qui passait parfois par le jeûne, mais c'est aussi par des postures à se mettre à genoux. Parfois même, regarder au Seigneur debout. La posture, vous allez me dire, je vois les jeunes qui sont avec nous, non, la posture, ce n'est pas le plus important. On peut prier Dieu en conduisant sa voiture avec les yeux ouverts. On peut prier Dieu en marchant, allongé. C'est d'abord l'attitude du cœur. Mais il faudra aussi voir notre attitude, notre posture extérieure, lorsqu'on s'adresse à Dieu. On ne s'adresse pas à un ami, chers amis. On ne s'adresse pas à un ami. Je suis contre ces expressions qui disent que Jésus, tu es mon ami, ou Dieu, tu es mon ami. Il n'y a pas de réciprocité dans cette amitié-là. Pourquoi ? Parce que la base de l'amitié dont parle Jésus, c'est si vous faites ce que je vous commande, alors vous êtes mes amis. Voilà la base. Et je ne veux pas dire, Dieu, tu es mon ami parce que je te demande ce que tu dois faire. Mais dans l'autre sens, oui, Dieu s'est permis d'appeler certaines personnes l'ami de Dieu. C'est dans l'autre sens. Alors, est-ce que notre réveil par rapport à la prière concernerait aussi, on n'est pas des pharisiens, mais concernerait aussi notre attitude, chers amis, lorsqu'on s'adresse à Dieu. L'apôtre Paul qui nous parle aussi de la persévérance, je vais terminer avec ces versets qui me servent quelque part de conclusion. Conclusion pour vous amener aussi à réfléchir par rapport à la persévérance. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez, veillez-y avec des actions de grâce. Action de grâce, c'est dire à Dieu, merci, être reconnaissant pour l'Église, être reconnaissant pour les bénédictions qu'il nous accorde sans arrêt. Persévérez dans la prière. La persévérance, il y a un effort. Cet effort peut être lassé. On n'a plus envie. L'herbe pousse. Mais ici, on nous dit, persévérez. Toujours Paul, parlant d'Épaphras, il dit au chapitre 4, Colossiens 4, verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. » Combat dans la prière. Persévérance. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. Il s'agit ici de la persévérance. Il y a la volonté. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Je pointe du doigt la persévérance. Ne pas relâcher. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Et persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Persévérez. Et toujours dans la bouche de l'apôtre Paul, Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Est-ce que ça vous parle? Persévérez dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse. » La prière, c'est le mode de vie du croyant. Ça devrait être notre style de vie, notre respiration personnelle, mais aussi communautaire. Si je dis aux jeunes, life, style, ça vous parle peut-être, mais c'est le mode de vie. Alors nos jeunes qui sont là, les trois jeunes, je vous dis, eh bien que la prière individuelle ou bien tous ensemble, vous retrouvez toutes les trois là, je ne sais pas si ça arrive, de prier. Ensemble, prier. Hein? Alors, ça doit être votre life style, votre mode de vie. Mon mode de vie, Félix, la prière. L'un des objectifs majeurs, c'est la citation pour terminer, l'un des objectifs majeurs de Satan est d'empêcher les chrétiens de prier. Satan se moque de nos études et de notre travail accompli sans prière, mais il tremble lorsque nous prions. C'est Samuel Chadwick qui dit ça. Là, des objectifs majeurs de Satan, c'est d'empêcher les chrétiens de prier. Satan se moque de mes études, de mes prédications, sans la prière. Il s'en moque, mais il tremble lorsque je prie. Amen.